Comment sont les grandes villes dans la lutte contre la pollution de l'air? Une étude compare les politiques menées dans 12 agglomérations. Paris, Grenoble et Strasbourg sont dans le trio de tête. Montpellier, Nice et Marseille sont les mauvais élèves. Cette enquête a été réalisée par Greenpeace, l'UNICEF et le réseau Action Climat. Bonjour Lorelai Limousin.
Bonjour.
Vous êtes la responsable des politiques climat et transport au sein du réseau Action Climat France. Avant de zoomer sur certaines villes, est-ce qu'on peut dire que globalement, ça progresse et que les grandes villes françaises s'attaquent au problème?
Globalement, ce qu'on a pu voir, c'est que toutes les métropoles ont pris des mesures pour réduire le trafic routier ou pour développer les alternatives, mais qu'aucune ville aujourd'hui en France n'est exemplaire, parce qu'aucune n'a pris des mesures suffisantes pour vraiment sortir du tout voiture, sortir des véhicules diesel essence qui polluent à la fois notre air et qui réchauffent le climat, et pour déployer toutes les alternatives pour permettre au plus grand nombre de se déplacer mieux tout en polluant moins. Donc à ce jour, on a encore, les villes françaises accusent encore un retard important, surtout par rapport à certaines capitales européennes.
Et d'après les critères que vous avez sélectionnés pour établir ce classement, il y a un point faible commun à toutes les villes, c'est les enfants.
Tout à fait, on sait, notamment parce qu'on a travaillé avec UNICEF, en plus de Greenpeace, on a regardé ce qui se passait pour les enfants, quelles mesures spécifiques ont été prises à la fois pour les protéger de la pollution de l'air, parce qu'on sait qu'aujourd'hui en France, 3 enfants sur 4 respirent encore un air toxique, et aussi quelles mesures ont été prises pour favoriser leur mobilité active, comme le vélo, comme la marche à pied. Et la réponse, c'est quasiment rien. Et pourtant, on connaît vraiment les impacts sur leur santé, parce que leurs poumons sont encore en voie de formation. Bref, c'est très important de prendre ce sujet à bras-le-corps dès le plus jeune âge. Et on voit qu'à part quelques initiatives, notamment à Nantes ou à Strasbourg, donc par exemple l'exemple des rues scolaires qui émergent petit à petit, c'est le fait de fermer les rues devant les écoles au trafic motorisé pendant l'entrée et la sortie des écoles.
Oui, c'est des choses toutes simples en fait à mettre en place.
Exactement, c'est des mesures qui n'ont pas de coût financier, qui peuvent être mises en place de manière temporaire, donc à ces horaires, mais aussi de manière permanente. C'est ce qu'on souhaite voir progressivement être mis en place. C'est des rues piétonnisées de manière permanente autour des écoles pour les protéger de la pollution de l'air.
Alors reprenons le classement. Paris est numéro 1, meilleur élève, pourquoi ?
Alors, Paris, Strasbourg et Grenoble, ou Paris, Grenoble, Strasbourg, dans le bon ordre, sont dans le premier trio de tête parce que, premièrement, ils ont pris des mesures pour sortir des véhicules les plus polluants et réduire la place de la voiture. Et Paris est tiré vers le haut du classement parce qu'en plus d'avoir une zone à faible émission opérationnelle, qui d'ailleurs s'élargit bientôt sur le territoire métropolitain, elle a pris l'engagement de sortir du diesel et de l'essence.
Et on sait... c'est le petit plus qui fait qu'elle est numéro 1 devant Grenoble et Strasbourg.
Exactement, dans l'évaluation, c'est ce qui a relevé l'évaluation, la note de Paris. C'est des sujets sur lesquels Strasbourg et Grenoble avancent aussi, mais Grenoble, par exemple, a pris un engagement sur le diesel et Grenoble l'a pris seulement pour le transport de marchandises.
À l'autre bout du classement, Marseille. Pourquoi Marseille est dernier ?
Concrètement, parce que Marseille n'a pas pris de mesures structurantes pour, d'une part, sortir les véhicules polluants de la ville, alors que c'est une source majeure de pollution de l'air. Elle n'a pas pris de mesures efficaces pour réduire la place de la voiture. Par exemple, la généralisation de la vitesse à 30 km/h au lieu de 50 km/h. Elle n'a pas pris de mesures spécifiques pour les enfants, aucune malheureusement. Et elle est aussi très très timide pour le développement des alternatives à la voiture individuelle, comme les transports en commun, comme le vélo. Néanmoins, on souligne que tout n'est pas noir. La piétonnisation a un peu avancé. Il y a une zone à faible émission qui est en cours de réflexion.
Il y a une ligne de tram, je crois, qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps.
Voilà, il y a aussi des nouvelles lignes de transport en commun. Donc il y aura des progrès, mais c'est clairement insuffisant par rapport à l'urgence climatique et l'urgence sanitaire.
Alors Marseille dernier, Montpellier et Nice complètent la queue de peloton. Ce sont 3 villes du sud. Ça, c'est le hasard ?
Alors, on n'a en effet pas regardé exactement la situation géographique des villes, mais c'est vrai qu'on voit ce point commun qui pourtant n'est pas un argument. Enfin, la situation est la même. Il y a encore la moitié des déplacements qui sont faits en ville, faits en voiture, qui font de l'ordre de 3 kilomètres. Donc, c'est une distance qui peut être effectuée autrement. Et cette réalité, elle est vraie pour la quasi-totalité des grandes villes de France.
Il n'y a pas quand même des paramètres géographiques. Est-ce qu'on peut comparer une ville plate comme Nantes, Marseille qui est en bord de mer, ou une cuvette comme Grenoble ?
Alors, Grenoble est assez plate, paradoxalement. Enfin, on pense souvent aux montagnes, mais c'est une ville plate et c'est ce qui joue forcément un petit peu dans l'utilisation du vélo qui est en pleine croissance. Mais voilà, il n'y a pas de raison vraiment dans les villes qu'on a étudiées de ne pas utiliser le vélo. Il y a peut-être Nice qui est un peu plus, qui a plus de relief. Mais comme je vous le disais, il y a un énorme retard sur les déplacements qui sont faits en voiture. Ça reste la quasi, enfin, une grosse majorité, notamment dans ces villes du Sud, et c'est problématique.
Quels sont les leviers sur lesquels une ville peut jouer? Est-ce qu'il y a des mesures simples? On citait tout à l'heure la rue scolaire, des mesures simples à mettre en place? Ou c'est forcément compliqué? On se fâche avec une partie de la population? Ou ça coûte cher?
Bah non, ces mesures, elles sont pas forcément coûteuses. Elles permettent même de faire des économies. Par exemple, la pollution de l'air, on sait que ça a un coût très important pour la société. On sait aussi que la majorité des 12 villes qu'on a étudiées sont en contentieux européen et donc pourraient payer des amendes. Donc notre message aussi aujourd'hui, c'est de dire, bah, plutôt que de payer des amendes devant la Cour de justice européenne, investissons dans les solutions. Le vélo, ça coûte pas cher par kilomètre par rapport à une autoroute. Malheureusement, les collectivités ont encore des projets routiers, ce qui est complètement absurde quand on sait qu'il faut pour réduire le trafic routier, pour réduire les émissions de polluants atmosphériques, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a des mesures voilà, qui ne coûtent pas cher, qui sont pour autant pas assez développées, et il y a des mesures qui nécessitent quand même un budget. On a regardé par exemple sur le vélo, l'un des indicateurs que nous avons pris en compte, c'est le budget de la politique cyclable par habitant et par an. Et on voit que les résultats sont très contrastés, où des villes comme Bordeaux, Lyon dépensent plus de 20 euros par an par habitant, alors qu'il y a des villes qui dépensent moins de 10 euros, par exemple les villes du Sud qui sont en queue de peloton.
Vous insistez dans cette étude sur les transports. Est-ce qu'il y a d'autres leviers, d'autres paramètres sur lesquels une ville peut jouer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ou c'est vraiment le principal problème?
Disons que c'est l'un des premiers secteurs émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants de l'air. Donc en agissant, en transformant le système de transport au niveau local, vous agissez sur ces deux tableaux, pour la qualité de l'air et pour le climat. Aussi pour favoriser une mobilité plus inclusive, accessible au plus grand nombre. Et par ailleurs, oui, il y a d'autres secteurs sur lesquels il faut agir, où les collectivités ont peut-être un peu moins de compétences, mais quand même un rôle à jouer. C'est notamment sur l'habitat, le bâtiment, qui émet encore des émissions, ou sur l'alimentation, ce qui permet d'avoir un impact sur l'agriculture.
Merci Lorelai Limousin, merci. Responsable des politiques climat et transport au sein du réseau Action Climat. Merci d'avoir été l'invité de France Inter. Il est 6h28.